Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, une affaire criminelle qu'en vérité, je vous ai déjà racontée. Ce fut le deuxième numéro d'On de la traconte en 2016. Mais c'est une histoire qui méritait d'être entièrement réécrite et remixée, car c'est l'une des affaires les plus incroyables du XXe siècle. L'affaire du tueur de la pleine lune, Francis Leroy, qui se déroule entre les années 60 et le début des années 80, et qui a pour décor la région de Bergerac, en Périgord. L'histoire d'un homme qui ne passe à l'acte que les nuits de pleine lune. Ce qui explique que pour le débrief, j'ai choisi d'inviter un scientifique, un physicien en l'occurrence, qui s'appelle Jérôme Bellayer et qui collabore au laboratoire de zététique de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Il est là au téléphone, bonjour.
Oui, bonjour Christophe Ondat.
Vous avez écrit aux éditions Bookie Book, Sous l'emprise de la lune, et vous nous direz donc tout à l'heure si la lune a des influences sur le comportement humain. Voici d'abord l'histoire du tueur de la pleine lune. La réalisation est de Céline Lebras.
14h, 15h, On de la traconte sur Europe 1.
Le 1er décembre 1978, vers 6h30 du soir, à Bergerac en Périgord, Jean-Pierre, 17 ans, rentre du lycée. Il ouvre la porte de chez lui. Et là, un homme lui saute dessus. Un grand, avec un bas sur la tête, armé. Au début, Jean-Pierre croit que c'est une mauvaise blague d'un copain de lycée, mais très vite il comprend que l'homme le tient vraiment en joue, que sa vie est en danger. Le type le traîne dans la chambre, il l'attache avec du sparadrap.
« Tu es seul, à la maison ?»«
Oui. »«
Et t'es pas là ? À quelle heure il rentre ?»«
Tout à l'heure. »
Et ensuite silence, jusqu'au retour de la mère.
Maman ! Maman, c'est pas une plaisanterie ! Fais ce qu'il te dit !
Et la mère est à son tour ligotée, et puis le père rentre à son tour. Et les voici maintenant tous les trois ligotés et bâillonnés. Contraints d'écouter cet homme qui parle beaucoup, avec un accent espagnol, vous avez remarqué. Ses propos sont décousus. Il parle de la guerre, de la révolution, de la fuite en Espagne. Et il ajoute :
Il y avait une voiture.
Une voiture ? Les trois ont surtout l'impression qu'il attend quelqu'un. Sinon, pourquoi resterait-il? Mais là, maintenant, tout de suite, il a faim, manifestement, et soif. Jean-Pierre et ses parents l'entendent ouvrir le réfrigérateur. Et il n'est pas content.
Mais qu'est-ce que c'est que cette maison où il n'y a rien à boire et à manger?
Six heures s'écoulent, durant lesquels ils sont là, tous les trois, terrorisés, se demandant ce qui va leur arriver. Et puis, ils entendent la porte d'entrée s'ouvrir, et plus rien. Jean-Pierre parvient à se détacher, il sort, il fait le tour de la maison. L'homme est parti, et après avoir réclamé une voiture, eh bien il est parti à pied. Il a volé un briquet et une montre, c'est tout. Mais que cherchait-il? Que voulait-il? Pourquoi? Pourquoi? À cause de son accent espagnol, les gendarmes explorent un temps la piste de l'organisation terroriste basque espagnole, ETA. Les combattants d'ETA, c'est connu, se réfugient en France et notamment dans le sud-ouest. Mais ça ne donne rien. Les gendarmes font aussi le tour des Espagnols de la région. Rien de rien. Alors finalement, l'affaire est classée sans suite. Deux ans plus tard, fin 1980, deux autres familles de Bergerac subissent le même sort. Elles sont séquestrées par un homme grand, maigre, masqué, avec un accent espagnol. Et elles ajoutent toutes les deux un détail.
« Moi j'ai trouvé que cet homme dégageait, vous savez, une odeur de sous-bois, quoi. »
Une odeur de sous-bois ? Mais que voulez-vous que les policiers fassent de ça ? Ça ne les aide pas à percer le mystère. D'habitude, quand ils prennent des gens en otage, les gens ont un but. Le vol, le viol, le meurtre. Là, le type s'introduit chez les gens, il les neutralise. Et après, il fait rien. Il attend, c'est tout.
il ne vole pas ou alors des objets sans valeur. Et il réclame des clés de voiture et il s'en va à pied. Tout ça ne tient pas debout. Deux ans plus tard, en octobre 1982, celui qu'on appelle désormais le fou de Bergerac frappe encore. Il est 7h du matin, une femme est réveillée par un bruit, son mari vient de partir, sa fille de 12 ans dort encore. Elle se lève et elle se retrouve nez à nez avec un homme très grand, masqué, qui lui colle un couteau sous la gorge et qui la viole. Et puis il la ligote dans la chambre de sa petite fille.
« Tu comptes jusqu'à 200. Et à 200, la fille pourra te détacher. Et vous gardez le silence, hein? Sinon, je m'en plains à la petite. »
Et là, il disparaît. Et quand il est parti, la petite fille dit à sa mère.
« Le jour où on arrêtera le type qui a fait ça, je te dirai quelque chose, maman. »
Et par crainte des menaces qu'il a proférées, la petite garde son secret pendant un an. Et puis un jour, elle lâche le morceau.
« Tu sais, maman, cet homme, il était déjà venu. »
Et ce que raconte la gamine est terrible. Un samedi matin, elle dormait encore, ses parents étaient partis travailler. Il l'a surgi dans sa chambre, il l'a emmenée dans les bois, il l'a violée. Et ensuite, il l'a ramenée chez elle et il lui a dit
« Si tu parles, il y aurait tout et tes parents. »
C'est pour ça qu'elle n'a rien dit jusqu'ici. Et donc à ce stade, le fou de Bergerac a frappé 5 fois, 3 fois sans raison apparente, et 2 fois, il a violé. Il réapparaît fin octobre 1982, toujours à Bergerac. Mais le père de famille le met en fuite. Et ensuite, il fait une pause de 10 mois. Et il frappe à nouveau le 26 août 1983, chez les Bauduin. Il est 21h, c'est une belle soirée d'été. Alix Bauduin, son mari et son frère dînent sur la terrasse. Les enfants sont déjà couchés. Et soudain, un homme avec un masque de vieillard et vêtu d'un poncho se jette sur eux, une carabine à la main.
Plus un geste, hein? La maison est cernée.
Il ligote tout le monde dans une chambre. Il réclame les clés de la voiture. Il raconte une histoire sans queue ni tête. Il arrive d'Espagne. Il doit y repartir. Et il attend. Il attend le reste de la famille, les beaux-parents d'Alix et l'un de ses beaux-frères, qui arrivent vers 22h. Et là, Alix Bauduin leur crie.
« Ne faites rien! Il y a quelqu'un qui va nous tuer si vous faites quoi que ce soit !»
Et la belle-mère se met à hurler. Et le beau-père, qui est amiral et qui a fait 3 guerres, voit que la carabine qu'il tient ne peut tirer qu'un seul coup. Alors il se jette sur lui, il se bat, et à un coup part, la balle traverse le bras de l'amiral. Et l'homme s'enfuit. Et tout de suite, les gendarmes se disent « C'est lui, c'est le fou de Bergerac. » Et maintenant, ils savent que son arme est chargée. Et cette arme, figurez-vous, qu'il l'a abandonnée en s'enfuyant. C'est une carabine 22 longs rifles. Elle a le canon et la crosse sciées. Mais sur l'arme, il n'y a pas d'empreinte, il avait des gants. Et la carabine n'est enregistrée nulle part. L'amiral Bauduin a entreaperçu son visage derrière le masque.
Je dirais qu'il a les cheveux châtains et noirs, bouclés dans le cou et de grandes pattes. Un type du pays, il ressemble à un périgourdin.
L'amiral aide les gendarmes à réaliser un portrait robot qui est diffusé. Un homme est interpellé qui lui ressemble beaucoup et qui, en plus, a une rougeur sur le cou. Est-ce que ça serait pas le coup de poing de l'amiral? Malheureusement, non. D'après le médecin, ce sont des boutons. Rien de plus. Quatre mois plus tard, en décembre 1983, le fou frappe encore. Marie-Ange et son mari dorment. Ils sont réveillés par une voix.
Nous sommes deux. Nous sommes évadés de la centrale d'Ace. Nous voulons de l'argent, des papiers et les clés de la voiture.
La voix ordonne à Marie-Ange d'attacher son mari.
Prenez un papier et quelque chose pour écrire. C'est bon? Écrivez. Vive les vacances, vive la liberté, vive les voyages. C'est bien.
Et après, il disparaît. Et il réapparaît un mois plus tard, le 24 janvier 84, à Lambrasse, 1000 habitants, pas très loin de Bergerac. Il est 5h30, Gaël, 18 ans, rentre du lycée. C'est l'hiver, il pleut, et l'homme est déjà là, planqué dans le garage, armé. Et quand elle ouvre la porte, il lui saute dessus. Il l'entraîne dans sa chambre, il l'attache, et une fois de plus, il attend le reste de la famille. La mère et la petite sœur arrivent vers 6h30. Il leur prend la carte bleue et 300 francs que la mère a sur elle.
« Il veut les clés de la voiture. »
Il les ligote toutes les trois. Et là arrive le fils, Marc, ligoté lui aussi et enfermé dans un placard. Voilà, tout le monde est rentré. On n'attend plus personne. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Il enlève le baillon de la fille aînée, Gaëlle.
« Tu vas répondre. Et tu vas dire que ta mère... Il est parti chez les amis, hein? Vas-y.
Allô? Ah non, maman, elle est chez des amis.
Sauf qu'à l'autre bout du fil, Jacques, un ami de la famille, sent qu'il y a un truc qui cloche. Il se dit j'y vais. Quand Jacques ouvre le portail, il se retrouve face à l'homme masqué. On ne sait pas exactement ce qui se passe à ce moment-là, course-poursuite dans le jardin, et une demi-heure plus tard, la police... Ça ressemble à une bonne nouvelle. Sauf que si les policiers sont là, c'est parce qu'on vient de retrouver Jacques, mort, lardé de 7 coups de couteau. Le tueur était grand et maigre. Le fou de Bergerac devient le tueur de Bergerac. Et à partir de là, à Bergerac, la psychose monte d'un cran, au point qu'une radio locale doit lancer des appels au calme au cas où certains seraient tentés de tirer à travers leur porte au premier coup de sonnette. « Attention ! Derrière la porte !» dit la radio locale. « Il y a peut-être votre voisin ou votre fils. » Et eux aussi, ils le décrivent. Grand, maigre. Ils parlent aussi de son odeur de sous-bois, tout ça on le savait. Mais Gaëlle, la fille aînée, ajoute un détail qui n'avait jamais été évoqué.
« J'ai remarqué qu'il avait un léger handicap à la main droite. »«
Bon, c'est toujours ça de prix, et au moins c'est du concret. Parce que pour le reste, on nage en plein délire. » La presse s'est aperçue que Le fou de Bergerac est le titre d'un roman de Simenon, un Maigret qui a été adapté à la télévision. Le chef des gendarmes dit un jour à des journalistes que c'est devenu son livre de chevet. Il y a de la surchauffe sous les képis, parce que qui lui a donné ce nom? Eh bien la presse, il ne s'est pas donné ce nom lui-même. Et pourtant, on va emmerder un certain Pierre Béthune, chauffeur de taxi, grand et maigre, qui a été chauffeur de l'équipe de tournage qui a adapté le Maigret pour la télé. Véridique ! Heureusement qu'il avait un alibi, le bougre. En revanche, la suite ressemble à un délire et pourtant c'est ça qui va tout débloquer. La scène se passe au commissariat de Bergerac. Pour s'amuser, hein, parce que je vous rappelle que ce sont les gendarmes qui ont l'enquête. Les flics inscrivent chaque agression sur un grand calendrier en carton. Et ils s'aperçoivent qu'elles ont toutes eu lieu au moment de la pleine lune. Incroyable! Et donc le lendemain au café, ils le disent à leurs potes. Et là, un collègue des renseignements généraux leur dit « La pleine lune, vous dites ? Ah mais j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ma femme !» Il fait du cheval. Et dans son centre équestre, il y a un homme qui a commis un meurtre, Yolanda. Je crois qu'on l'appelait l'assassin de la pleine lune. Les policiers plongent dans leurs archives et ils trouvent des coupures de presse et des procès-verbaux qui parlent effectivement de l'assassin de la pleine lune, Francis Leroy.
Voyons, voyons. Écoutez ça, les gars. Ouh, j'ai du lourd.
En 1961, à Saintes, en Charente-Maritime, ce Leroy a tué une jeune femme prénommée Christiane. Il s'est introduit chez elle la nuit. Et le lendemain, on l'a retrouvée nue, morte, étranglée.
et il a recommencé en 62. Écoutez, toujours à Saintes, il s'introduit au domicile d'une femme de 59 ans, et il lui vole un transistor et il disparaît.
Et cet homme se fait pincer en mars 1962. À 4h du matin, il entre chez une mère de famille, il a un couteau.
Où est l'argent ?
La femme montre le tiroir de la commode, il l'ouvre, et là elle hurle. Et lui il a peur, il s'enfuit. Et en s'enfuyant, il laisse derrière lui des confettis sur le sol. Des confettis. La veille, c'était le bal de l'école d'agriculture. Les policiers fouillent l'école, et dans le casier d'un élève de deuxième année qui s'appelle Francis Leroy, ils trouvent un transistor Philips volé à Saintes en février. Leroy est arrêté, et il avoue. Et en 1964, il est condamné par la cour d'assises à 20 ans de prison. Et c'est là qu'on s'aperçoit que toutes ces agressions ont eu lieu le soir de la pleine lune. C'est là qu'il gagne son petit nom, l'assassin de la pleine lune. Ah, un petit détail, ce Leroy, il lui manque deux phalanges à l'auriculaire droit. Vous vous rappelez de la petite Gaëlle, elle a parlé d'un handicap à la main droite. C'est lui, c'est Leroy, c'est le tueur de la pleine lune qui s'est remis en marche. Et où est-il aujourd'hui, ce Leroy ? Condamné à 20 ans, il a fait 11 ans de prison, il est sorti en 1973. Et effectivement, il travaille dans un centre équestre à Bourdeil, qui appartient en fait à ses parents. Et lui, il habite à Périgueux, dans une petite maison. Les policiers de Périgueux transmettent immédiatement leurs infos aux gendarmes, qui pourraient aller le serrer tout de suite, mais qui commencent par se rencarder. Ils vont voir les voisins. Que des éloges. Le type a une vie tout à fait normal. Il est impliqué dans des associations. Il s'investit notamment pour le développement du Périgord vert. Avec un gros bémol, tout de même. Il est grand et maigre, mais il ne ressemble pas du tout au portrait robot. Les gendarmes le prennent discrètement en photo. Ils vont montrer la photo à l'amiral Bauduin. Vous pouvez nous dire si c'est lui ? Ouais, ça pourrait être lui. Il est temps de l'interpeller. Un soir, il rentre chez lui avec sa compagne. Dès qu'il sort de la voiture, les gendarmes lui sautent dessus. Il n'oppose aucune résistance. Il est très calme. Il se laisse fouiller. Et dans sa sacoche, les gendarmes découvrent une carte bleue au nom de son avant-dernière victime. Et dans sa petite maison, il tombe sur un calendrier. À la date du 24 janvier, il est écrit « Francis, absent ». C'est sa compagne qui a écrit ça. Et elle confirme que ce soir-là, il n'est pas rentré. C'est lui. Plus de doute. Et les gendarmes amènent le roi à la ferme des Bourdeilles chez ses parents. Et dans une chambre sous le lit, il trouve un morceau de crosse de fusil. Et là, le roi s'effondre. C'est le déclic. En garde à vue, il déballe tout. Ça dure toute la nuit. Il avoue les séquestrations, les deux viols, et il raconte en détail le meurtre de Jacques.
Moi, quand il a débarqué, j'allais partir. Quand je l'ai vu, je me suis enfui. Il m'a couru après. On s'est battu, j'avais un couteau. Voilà, je me suis défendu, quoi. C'était un accident, je voulais pas le tuer.
Un accident ? 7 coups de couteau ? Le lendemain, Francis Leroy est présenté au juge d'instruction. Devant le tribunal, il y a des centaines de personnes venues le conspuer. On réclame sa tête, on le traite de loup-garou. Les journalistes écrivent « C'est le Moyen-Âge, il ne manque que l'échafaud ». Devant le juge, le roi bute sur le pourquoi. Pourquoi ces séquestrations ? Pourquoi ces viols ? Pourquoi ce meurtre ? Sur le moment, il n'a pas d'explication. C'est plus tard qu'il parlera d'envoûtement, de forces occultes et de son goût depuis tout petit pour l'ésotérisme et le paranormal. En attendant, il y en a une qui ne peut pas croire, qui ne veut pas croire qu'il est coupable. Une qui le couvre comme une louve depuis toujours. Sa maman. Et là, il faut que je m'arrête 2 minutes parce que la maman, c'est la clé pour comprendre le personnage. Francis Leroy naît en 1940, en pleine guerre, la veille de Noël. À ce moment-là, son père est prisonnier en Allemagne. Et quand le père rentre de captivité en 45, la mère ne lui laisse aucune place auprès de son fils. Aucune. C'est le fifis à sa maman. Et pour vous dire à quel point elle le couve, ils habitent à 100 mètres de l'école. Et bien quand le petit Francis a envie de faire pipi, la maman exige qu'on le ramène chez lui. Elle a l'exclusivité de son zizi. La mère castratrice par excellence. Et plus tard, à 15 ans, quand il commence à sécher les cours, eh bien, elle lui signe tous les mots d'absence dont il a besoin. Et donc, naturellement, quand il sort de prison en 73, il revient chez maman, qui, entre-temps, a acheté une ferme à Bourdeil. Et il reprend sa place de petit garçon auprès de sa maman. Et elle se remet à le couver. Il n'a même pas d'argent à lui, alors qu'il travaille à la ferme. Il accompagne des randonnées à cheval. Il n'a que de l'argent de poche, passé 40 ans. Et quand il a voulu lui présenter une femme, bah ça n'allait jamais. Elle fumait, elle buvait, elle parlait trop, ça n'était jamais celle qu'il lui fallait. Et c'est sans doute comme ça, pour ça, parce qu'il est étouffé, frustré, castré, que Francis Leroy se réfugie dans l'occultisme, le vaudou, la chouette, les forces occultes. Le terrain était favorable, hein. Depuis tout petit, sa mère le soigne par des guérisseurs. Francis Leroy a dit au juge qu'à chaque fois qu'il est passé à l'acte, à chaque fois qu'il est entré chez des gens, il a été poussé par des forces occultes. Et la question maintenant, c'est, est-ce qu'il est sincère? Autrement dit, est-ce qu'il est fou? Ou est-ce qu'il est en train de manipuler le juge? Le juge missionne des experts psychiatres. Et leur réponse est sans appel. Cette histoire de force occulte est une manœuvre. Il pense que ce qui le caractérise, c'est un sentiment de toute puissance, un désir d'emprise, un désir de possession. C'est un sadique qui jouit de son pouvoir, de sa domination sur les gens qu'il séquestre. C'est pour ça qu'il les attache. Donc, c'est un psychopathe, mais certainement pas un malade mental qui a agi contre son plein gré. Et la lune, alors? Parce que ça, c'est incontestable, hein. Il passe bien à l'acte les nuits de pleine lune, aussi bien dans les années 60 que dans les années 80. Le juge d'instruction fait partie des croyants. Il croit à l'influence de la lune. Mais il ordonne tout de même des expertises. Et c'est une grande première dans la justice française. Des médecins vont mesurer chez le roi l'évolution de deux hormones, la mélatonine et l'ACTH, qui toutes les deux participent à la régulation du stress. En prison, on va lui faire des prises de sang à des moments différents du cycle de la lune. Et on s'aperçoit qu'au moment de la pleine lune, le roi présente des taux 2 à 4 fois supérieurs à la normale. Conclusion des experts, oui, le roi est soumis à l'influence de la lune. Ça vous plaît, ça, hein? Mais vous me connaissez, n'est-ce pas? Vous savez que contrairement au juge, moi je ne suis pas croyant. Alors permettez-moi 3 remarques. D'abord, les experts ont omis de mesurer ces taux d'hormones en dehors des périodes de pleine lune. C'est ballot. Ensuite, ils n'ont pas tenu compte du fait qu'il est en prison, ce qui doit quand même rajouter à son stress. Et enfin, ils n'ont pas comparé ses dosages d'hormones avec ceux d'autres prisonniers. C'est dommage. Bref, vous ferez comme les jurés. Vous croirez à l'influence de la lune ou pas? Car maintenant, il faut juger Francis Leroy. Le roi comparé devant la cour d'assises de Dordogne à Périgueux le 19 juin 1989. Et figurez-vous que c'est un jour de pleine lune. Et assez vite, la lune et ses effets sont au cœur du procès. Les avocats de le roi, évidemment, en jouent à fond. Il est sous l'influence de la lune. Il n'est qu'à moitié responsable. On fait venir à la barre un certain Rémy Chauvin, biologiste, spécialiste des effets de la lune. Mais le ballot commet une faute Il donne une interview à la radio régionale avant sa déposition.
Eh bien, écoutez, je dirais que par le biais de dérèglements hormonaux, la Lune peut avoir une influence sur le comportement de quelqu'un.
Ça ne se fait pas de parler aux journalistes avant de parler à la Cour. Et le président et l'avocat général sont furieux. Il aurait dû garder la primauté de ses conclusions pour la Cour. Le président accepte qu'il dépose, mais il est déstabilisé, et donc décrédibilisé. Et il s'enfonce un peu plus quand il déclare
« Je dois dire que les oies se comportent différemment, selon les périodes de lunaison. »
Éclat de rire général. Le roi n'est pas une oie. Le journal Sud-Ouest titre « La lune dans le caniveau ». À la fin du procès, le réquisitoire de l'avocat général Gérard Albiger est implacable.
Le roi est un chacal qui atteint ses proies. C'est un être qu'il faut neutraliser. Il faut l'arrêter. Et par pitié, finissons-en avec l'influence de la lune. Le roi est responsable de ses actes. Il n'a aucune, vous entendez, aucune circonstance atténuante. Ni la lune, ni sa mère castratrice, ni aucune forme de folie. En conséquence de quoi vous allez le condamner à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, que vous assortirez, en vous souvenant qu'il est en état de récidive, d'une peine de 30 ans de sûreté.
La défense de le roi tente de plaider une forme de folie. À la fin, le roi bredouille quelques mots en direction des victimes. Il apparaît plus misérable que fou. En moins de 3 heures, les jurés de Périgueux condamnent Francis Leroy à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté non pas de 30, mais de 20 ans. À l'énoncé du verdict, il ne montre aucune réaction. Il est sorti de prison depuis. Il a quitté le Périgord et il n'a jamais plus refait parler de lui.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Voilà pour cette incroyable histoire et au passage d'ailleurs une précision, je m'aperçois que je ne vous l'ai pas dit, mais son accent espagnol était en vérité un déguisement qu'il n'avait pas utilisé dans les années 60 et utilisé uniquement entre 78 et 1984. J'ai voulu débriefer cette histoire avec un scientifique pour parler des effets de la Lune sur le comportement humain. Et je suis donc avec Jérôme Bellayer, qui est physicien et qui collabore au laboratoire de zététique de l'université de Nice Sophia Antipolis et qui a justement publié un ouvrage intitulé « Sous l'emprise de la Lune » aux éditions Bookie Book. Alors Jérôme Bellayer, d'abord expliquez-nous ce que c'est la zététique.
Oui, alors effectivement c'est un nom un petit peu étrange, mais ça vient du grec « zétein » qui veut dire « chercher ». Et c'est tout simplement appliquer la méthodologie scientifique à des phénomènes que l'on va dire paranormaux.
Alors, vous nous direz tout à l'heure à quelle conclusion vous êtes arrivé sur l'influence de la Lune sur le comportement humain. Mais d'abord, j'ai envie de vous entendre sur cette histoire, l'histoire de Francis Leroy. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette histoire, vous, le scientifique ?
Effectivement, c'est une histoire qui est très intéressante parce qu'elle montre plusieurs choses. Et une des premières, c'est effectivement le fait d'arriver à trouver des spécialistes qui vont pouvoir nous dire que la Lune a une influence sur le comportement humain. Et quand on regarde effectivement ce que j'ai fait, les études scientifiques qui ont été faites, on n'en trouve aucune qui montre de manière significative et reproductible une quelconque influence de la Lune sur le comportement humain.
Mais pourtant, elles sont produites par des spécialistes.
Oui, tout à fait. Quand on regarde, par exemple, les croyances dans les influences de la Lune, il y a eu 2 sondages en 87 et en 1995 qui montrent que près de 80% du personnel médical croit à une influence de la Lune. C'est assez impressionnant, contre environ 43% de la population. Donc la croyance est très très répandue dans ce milieu. Et après, sur les études en elles-mêmes, les études scientifiques en elles-mêmes, Il y a plusieurs choses à dire dessus, c'est-à-dire que on va trouver des petites études sur des effectifs assez réduits qui vont pouvoir montrer un effet quelconque. Mais en fait, d'un point de vue statistique, c'est pas anormal de trouver quelques études qui montrent un effet, puisqu'avec les critères retenus par les scientifiques qui étudient cela, en gros, une étude sur 20, même s'il n'y a pas d'effet, montrera un effet, on va dire, juste par hasard, quoi. Mmh. Donc trouver quelques petites études qui montrent un effet, on peut en trouver quelques-unes. Mais si on élargit le regard, et si on élargit le nombre d'études prises en compte, on remarque voilà, que le sentiment global, c'est qu'il n'y a pas d'effet, en tout cas, qui soit mis en évidence de manière rigoureuse et reproductible.
Si vous le voulez bien, on reviendra là-dessus tout à l'heure en reprenant quelques-unes des idées reçues sur l'influence de la Lune, et vous nous direz ce que vous avez trouvé, vous, à l'autre bout. Mais revenons à Francis Leroy. Vous le connaissez, vous, ce Rémi Chauvin, biologiste, expert en Lune?
Oui, dans le domaine de la zététique, Rémi Chauvin, on en a un peu entendu parler, et c'est pas, on va dire que c'est pas quelqu'un qui soit d'une rigueur extraordinaire sur ses critères de recherche et d'analyse de ces phénomènes, quoi.
C'est-à-dire, il fait partie des croyants, quoi.
Oui, tout à fait, voilà. Et des croyants, à la limite, qu'il soit croyant, ça le regarde, mais qui laisse sa croyance influencer son travail. C'est ça qui est plus gênant, quoi.
Au fond, cette histoire de Francis Leroy, on peut en inverser le récit. Il ne commet ses crimes que les soirs de pleine lune parce qu'il croit, lui aussi, aux effets de la pleine lune, comme il croit au vaudou, comme il croit à la chouette, comme il croit au guérisseur chez qui l'amenait sa maman.
Voilà, comme vous l'avez si bien dit dans le récit, il baigne dans une ambiance d'ésotérisme, de paranormal, et donc forcément, il a entendu parler, on lui a parlé des différents pouvoirs revendiqués de la Lune. Et s'il se convainc lui-même que la Lune peut avoir une influence, elle va indirectement agir sur lui par l'intermédiaire de sa croyance. Et ça, on en a des preuves de manière très très courante, hein, ne serait-ce que si on prend en médecine l'effet placebo ou des choses comme ça, c'est l'effet d'une croyance sur la physiologie, et ça, c'est très très documenté. Donc effectivement, le fait qu'il baigne dans ce milieu peut être une explication à ses revendications et au fait qu'il dise que c'est la Lune qui l'a influencé.
Mais c'est plutôt comme ça qu'il faut raconter l'histoire. Il agit les soirs de pleine Lune parce qu'il croit à la puissance de la pleine Lune et non pas parce qu'il est victime de la Lune. Alors, Jérôme Bellayet, il faut donc que je vous soumette quelques-unes des idées reçues sur l'influence de la Lune sur le comportement humain. Et d'abord, la première, est-ce que la Lune pousse au crime? Est-ce que vous êtes parvenu à répondre à cette question?
Alors effectivement, c'est une croyance qui est assez répandue par rapport au crime et à la violence en général. Ça remonte à loin, hein, puisque déjà dans l'Antiquité, on parlait de une influence de la Lune sur le comportement humain. Mais en fait, les différentes études scientifiques qui ont pu être faites dans ce domaine n'ont pas apporté réellement de preuves, mais l'important avec cette croyance, c'est qu'elle est supposée avoir une base scientifique. C'est-à-dire que en 1978, il y a un psychiatre américain qui a publié une étude qu'il avait faite sur l'influence de la Lune sur les crimes aux États-Unis.
Et il disait qu'elle en avait.
Alors lui, effectivement, son étude montrait un beau graphique avec un pic au moment de la pleine lune. Donc voilà, il avait montré qu'il y avait plus de crimes, au moment de la pleine lune.
Et si c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé alors?
Et alors après, ben, comme souvent dans le domaine des études, on va dire statistiques, c'est qu'après, il a tenté ce qui était honorable de sa part, de reproduire son analyse avec d'autres données sur un autre comté aux États-Unis. Et là, les résultats, la courbe obtenue n'était pas tout à fait la même que la première qu'il avait trouvée. Alors il a commencé à modifier son hypothèse pour que ça colle avec ses nouveaux résultats. Et puis il a fait encore une étude différente avec d'autres données et il avait encore des résultats différents. Alors à chaque fois, il modifiait son hypothèse pour essayer de coller à ses différents résultats. Quand on les prend dans leur ensemble, finalement, montre quoi? C'est que la fluctuation du nombre de crimes n'avait pas de lien avec la pleine lune. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait peut-être une hausse à un certain moment de l'année ou du mois, mais ça n'était pas toujours à la pleine lune. Sa première étude, peut-être, a été un hasard à ce moment-là, mais quand il a essayé de reproduire,
il n'y a jamais
pas du tout retrouvé les mêmes résultats. Et c'est là où on voit l'influence de la croyance, y compris sur,
sur les
certains chercheurs. Mmh. Voilà. Mmh. C'est que là, il s'est laissé guider par sa croyance, il pensait qu'il devait y avoir un effet, et il a cherché à chaque fois à faire coller son hypothèse, ses explications,
très intéressant,
avec sa croyance.
Alors, autre idée reçue, Jérôme Belayé, on dit que la Lune pousse au suicide. Et que il y a, vous trouverez toujours un sapeur-pompier pour vous dire « Oh, la nuit de pleine lune, on n'arrête pas d'aller ramasser des cadavres. » Vrai ou faux ?
Alors, effectivement, les pompiers, les gendarmes, les policiers, les gens des urgences sont les premiers à être exposés à ces phénomènes. Et effectivement, quand on les questionne,
c'est sûr,
très grande majorité, ils vont nous dire qu'effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus de violence, de suicide, peut-être, de... Mais quand on prend le recul, c'est-à-dire que vraiment on analyse, on note, on prend les statistiques, les relevés, puisque forcément leurs sorties sont notées, leurs interventions sont notées, en fait on ne trouve pas de confirmation de leur dire. Statistiques, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un test qui a été fait dans un centre d'appel, où en fait, pendant 6 mois, ils ont relevé tous les appels qu'il y avait. Centre d'appel, donc, pour des urgences, des accidents, des bagarres, etc. Mmh. Donc, ils ont demandé au personnel du centre d'appel, qui a confirmé qu'effectivement, ils avaient eu plus de travail, plus d'appels les soirs de pleine lune.
Oui.
Et après, on a repris toutes les données, et on a remarqué qu'il n'y avait rien du tout.
Il y croyait lui aussi. Autre croyance, les nuits de pleine lune, c'est la queue aux urgences psychiatriques.
Ah, ça... Effectivement, ça reste dans le même domaine, c'est-à-dire que le personnel médical majoritairement a cette croyance, et donc il y a différents effets, c'est-à-dire qu'il y a notre manière de réfléchir est soumise à beaucoup de biais psychologiques. Et effectivement, si on croit qu'il va y avoir plus de monde les soirs de pleine lune, eh bien on va arriver à s'en persuader de la manière suivante, c'est-à-dire que si un soir on a plus de monde, on va aller voir le calendrier, si on pense que la lune a une influence. Et on va regarder, on va se dire, ah ben tiens, effectivement, c'était un soir de pleine lune, ça confirme ma croyance. Si un soir, il y a plus de monde, je vais voir le calendrier, et ce n'est pas un soir de pleine lune, c'est un souvenir qui sera beaucoup moins prégnant dans notre esprit. Et quand on essaiera de se rappeler, ça a été montré par des différentes expériences en psychologie, que ce sont les souvenirs qui sont dans le sens de notre croyance qui reviennent les premiers et le plus vite. Et c'est ce qu'on appelle voilà un biais de confirmation. La mémoire sélective, quoi, si on veut parler, c'est-à-dire qu'on va se rappeler plus des événements qui vont dans le sens de notre croyance.
Passionnant.
Et donc si on prend pour les urgences psychiatriques, on n'a rien noté. En revanche, ce qu'on a noté, ce sont les hospitalisations sur demande d'un tiers qui augmentent, c'est-à-dire sur demande d'un parent, d'un médecin. Voilà, mais en fait, c'est-à-dire que si la personne a un problème, comme ça, une sorte de pleine lune, c'est en fait l'entourage qui, justement, en baignant un petit peu dans cette croyance, va se dire il y a un effet de la lune, il faut qu'on le fasse interner. Quoi. Et effectivement, sur les statistiques, les hospitalisations sur demande d'un tiers augmentent les soirs de pleine lune.
J'ai adoré parler avec vous, Jérôme Belayé. Je regrette de ne pas pouvoir passer plus de temps avec vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Sous l'emprise de la lune » aux éditions Book e-book.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.